Toujours à l'écoute de Radio France Internationale, il est 5h30 ici à Paris, une heure de plus à Khartoum. Et comme promis, toute l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de votre journal, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
En ce 25 novembre, comme chaque année, RFI se met donc à la page et vous propose notamment dans quelques instants un reportage dans l'est de la RDC où les femmes sont encore bien trop souvent victimes dans un contexte de guerre. Les horreurs au Soudan également, après plus d'un an et demi de conflit, on vous propose une journée spécial aussi sur cette thématique. On sera dans les ruines de Khartoum dans ce journal. Les négociations pour lutter contre la pollution plastique après la COP29 et après deux ans de discussions surtout. Réunion en Corée du Sud à Busan cette semaine. Et puis cette triste disparition, le peintre et poète d'origine sud-africaine Brayton Barr s'est éteint à Paris où il résidait. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous partons donc tout d'abord dans l'est de la RDC, à la rencontre de celles qui ont connu le pire. Après avoir fui la guerre, des femmes victimes de violences sexuelles dans les camps de déplacés autour de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, dans cet est congolais, où déjà plus de 52 000 victimes ont été recensées depuis le début de l'année par les Nations Unies. Un chiffre qui explose. Reportage au camp de Roussayo, signé Héritier Baraka.
Dans le cas de Roussayo, les déplacés vivent dans des tentes à Lambo. Ici, nombreuses sont les femmes agressées dans les champs voisins, les parcs ou même dans l'enceinte du camp. Habillée de noir, les pieds dans la boue, Rebecca, une jeune femme de 30 ans, a été violée par un homme armé.
Quand nous allons chercher le bois de chauffage, chacune prend son chemin. Là, je suis passée, j'ai eu un problème. J'ai rencontré un militaire que je ne connaissais pas. Il m'a demandé de choisir entre me tuer ou me violer. En voulant m'échapper, il m'a blessée à la main avec un couteau.
Mouisa a été violée alors qu'elle allait chercher des bois de chauffage. Par peur des représailles, elle hésite toujours à dénoncer son bourreau.
Quand je suis revenue au camp, je ne savais pas quoi faire. J'attends que l'on m'aide avec des médicaments, que l'on me conseille, car il m'a peut-être transmis des maladies ou je suis peut-être enceinte.
Pour Maître Liliane Moseka, membre de la dynamique des femmes juristes, une organisation qui soutient les victimes, il faut en finir avec l'impunité.
On a des femmes qui sont violées, violentées plus d'une fois, même une semaine. Il y a plusieurs acteurs qui sont cités comme des éléments en uniforme. On dit que ce sont des cas qui restent impunis.
Entre janvier et mai 2024, Médecins sans frontières affirme avoir pris en charge plus de 17 000 victimes de violences sexuelles dans la province du Nord Kivu. Des retours du cas des déplacés de Roussayo, Héritier Baraka, Goma et RFI.
Et pour cette journée internationale dédiée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, notre invitée internationale ce matin sera justement Tatiana Mukanire Bandalire, militante congolaise, coordinatrice du Mouvement National des Survivantes, auteure de « Au-delà de nos larmes » préfacée par le célèbre docteur Denis Mukwege. Rendez-vous à 6h20 en temps universel. La RDC, le Nord Kivu, qui reste sous le coup d'un état de siège décrété par les autorités il y a 3 ans maintenant, tout comme la province voisine de l'Ituri d'ailleurs, mesure dont les sociétés civiles locales réclament la levée et qui pourrait d'ailleurs faire obstacle aujourd'hui, selon la constitution en vigueur, à la révision constitutionnelle qui est souhaitée par le président Félix Tshisekedi. Un état de siège qui a fait l'objet par ailleurs d'une mission d'évaluation menée par la première ministre Judith Suminwa dans les deux provinces concernées. Mais les deux dossiers n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il ne faut voir ici aucun agenda politique. C'est ce qu'affirmé hier soir à Kinshasa Jacquemin Chabani, le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur et de la sécurité.
Est-ce que l'initiative du gouvernement par rapport à l'évaluation des mesures d'allègement de l'état de siège a une corrélation avec une initiative sur la révision ou peut-être le changement de la Constitution? Je vous dirais clairement non. Donc aucune corrélation. On doit aussi arriver à se souvenir que de la façon la plus innocente possible et sans arrière-pensée, au niveau de notre classe politique et même de notre société civile, plusieurs personnes se sont prononcées à plusieurs moments différents, sans aucune interprétation quelconque, sur la nécessité de voir certaines dispositions de notre Constitution révisée, et je crois que cela est légitime. Donc la problématique de revoir certaines dispositions de notre Constitution, elle se pose et elle s'est posée Sincèrement, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le gouvernement de la République, il n'y a aucune corrélation. Mais il y a des besoins, il y a des appels de notre population qui nous interpellent et qui nous appellent, nous le gouvernement, à nous pencher sur ces questions. Il faut qu'on évalue, il faut qu'on arrive à voir comment leur permettre de retrouver une vie constitutionnelle normale.
Jacquemin Chabani, qui écarte donc tout agenda politique après la mission d'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Quoi qu'il en soit, le débat sur une révision constitutionnelle anime la RDC en ce moment. Et pour en parler, nous recevrons après ce journal Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. Il présidait l'Assemblée nationale quand la constitution actuelle a été promulguée en 2006. Les horreurs de la guerre au Soudan à présent. Journée spéciale aujourd'hui sur RFI sur les conséquences de ce conflit déclenché le 15 avril 2023 entre les forces armées soudanaises du général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. 19 mois de guerre qui ont littéralement ravagé la capitale Khartoum et mené à l'exode plus de la moitié de la population de la ville, estimée avant-guerre à près de 8 millions de personnes. Dans la banlieue ouest, à Omdurman, reconquise par l'armée régulière en février dernier, quelques habitants reviennent bien au compte-gouttes s'installer dans les ruines, mais la situation reste très compliquée sur place. Reportage de notre envoyé spécial Elliot Brachet à Wad Noubaoui, un quartier historique qui a justement été le théâtre de l'une des plus féroces batailles.
Partout, le sol est jonché de verres brisés, de douilles de mitrailleuses, de brosses à dents, de photos de famille calcinées. Les services de déminage et une poignée d'habitants, comme Mohamed Romar, ont débarrassé les maisons des cadavres et des obus non explosés.
Les forces de soutien rapide étaient disséminées dans le quartier, en position défensive. L'armée avançait rue par rue, ralentie par les snipers, mais aussi car il y avait de nombreux civils dans les maisons, les paramilitaires les utilisaient comme des boucliers humains.
Si l'armée régulière a repris le quartier, c'est au prix d'immenses destructions.
Il n'y a plus rien à voir, ma maison est en ruine. À l'intérieur, tout est détruit. Ici, le mur s'est effondré, là, il n'y a plus de toit. L'armée était postée dans la rue là-bas. Les paramilitaires de l'autre côté, ils sont tous irresponsables. Les deux camps, irresponsables. Et qui est-ce qui meurt au final? Ce sont les pauvres gens.
Tariq Abdallah se tient au milieu d'une cour lacérée par les obus. Cet ancien commerçant n'a plus d'argent pour vivre ailleurs.
Tous les 2-3 jours ici, il y a un habitant qui meurt. Et qu'est-ce qui les tue ? Maintenant, c'est la famine. Les gens sont faibles, ils mangent à peine quelques lentilles. Il suffit d'un moustique qui te pique pour que tu meurs. Ils auraient pu mettre un terme à cette guerre il y a longtemps. Aujourd'hui, elle mène à notre perdition. Ils ont perdu la raison, ils sont guidés par la haine. Notre pays est perdu.
Quelques habitants déblayent les gravats, mais ici, personne ne reconstruit. La guerre n'est pas finie. Eliott Brachet, Khartoum, RFI.
Le Soudan, auquel nous consacrons donc une journée spéciale aujourd'hui sur la Radio du Monde. Un autre reportage à retrouver après ce journal, le témoignage d'une jeune femme qui a vécu le pire. La COP29 de Bakou, à peine refermée ce week-end en Azerbaïdjan, les discussions pour la planète se poursuivent, avec cette fois les négociations engagées depuis 2 ans sur la question de la pollution plastique. Elles réunissent 175 pays qui se retrouvent pour une réunion cette semaine à Busan, en Corée du Sud. Alors, pour schématiser, 2 camps se font face dans ce dossier. Le premier, majoritaire, qui souhaite un traité contraignant pour réduire fortement la production de plastique. Le second camp, emmené lui par les pays pétroliers, Arabie Saoudite, Iran et Russie en tête, qui souhaitent limiter les mesures au traitement et au recyclage des déchets plastiques. Dans tout cela, quelle est donc la position des pays africains? Nous avons posé la question à David Azoulay, expert du Centre pour le droit international de l'environnement.
Dans sa grande majorité, l'Afrique s'est prononcée pour une réglementation du plastique au long du cycle de vie, c'est-à-dire à partir de la production, pour une réglementation des produits chimiques, pour des besoins de financement très clairs, il y a environ 52 ou 53 pays très largement alignés sur les demandes de la coalition de haute ambition. Notamment parce que l'Afrique n'est pas un grand producteur de plastique et c'est donc extrêmement compliqué pour les pays africains de mettre en œuvre les accords internationaux et de se protéger des impacts de la pollution plastique si l'ensemble des obligations est laissé en aval de la production en plastique. Il y a quelques voix dissonantes au sein de la région africaine, parmi les pays producteurs de pétrole ou dépendants de producteurs de pétrole, comme l'Algérie, l'Égypte et dans une certaine mesure l'Afrique du Sud. Et on voit certains pays qui sont en train d'évoluer vers une influence géopolitique russe, qui eux aussi ont tendance à adopter des positions qui sont moins alignées avec les objectifs du reste du continent.
L'analyse de David Azoulay, contacté par Géraud Bosman. À l'approche des commémorations du massacre de Tiaroy au Sénégal, j'attire votre attention sur ce nouvel épisode de notre podcast Enquête africaine qui sort aujourd'hui sur ce massacre. Donc, c'était le 1er décembre 1944 lorsque des tirailleurs de retour de la Seconde Guerre mondiale ont été abattus sur ordre d'officiers français. 80 ans après, RFI et Charlie Dupiot ont enquêté. Les quatre premiers épisodes sont à retrouver dès aujourd'hui sur nos plateformes d'écoute. Le cinquième et le dernier épisode sera disponible, lui, le 6 décembre, après donc les commémorations prévues le 1er décembre. Une plume qui s'envole. Le peintre et poète d'origine sud-africaine Breiten Barr s'est éteint à Paris où il résidait, lui qui avait été naturalisé français. Il avait 85 ans. Il laisse une œuvre riche, connue surtout en Europe pour ses toiles, quand ses poèmes sont enseignés, eux, dans les manuels scolaires sud-africains. La Nation Arc-en-Ciel, où il fut un militant anti-apartheid, il a passé 7 ans en prison. Il fondera ensuite l'Institut Gorée au Sénégal, dédié aux problématiques de démocratie. Un engagement sur lequel revient Georges Lory, son traducteur de poésie.
Il s'était engagé très tôt en politique, il était anti-apartheid et il est devenu beaucoup plus après avoir épousé une Française d'origine vietnamienne et on leur interdisait de revenir ensemble en Afrique du Sud puisqu'elle n'était pas considérée comme blanche. Donc il a créé un groupe de résistance en Afrique du Sud essentiellement pour échanger des renseignements.